Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Et rebonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal. Et à la une, la rentrée scolaire reportée en Guadeloupe et en Martinique. Deux personnes en garde à vue après les dégradations commises sur la stèle de Simone Veil. Et puis Mbappé au Real, c'est encore loin d'être fait, mais ça y est, les Espagnols ont sorti le carnet de chèques.
Vous en prenez l'habitude. Juste après le journal, deux débats. Faudra-t-il une troisième dose pour tout le monde? C'est le professeur Delfrécy qui le disait ce matin. Et puis la primaire à droite, maintenant Éric Ciotti, tous candidats. Est-ce une maladie française? À quoi ça sert? On en parlera.
Justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Iriez-vous voter à une primaire à droite? Vous dites oui à 26%, non à 66%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Amandine, bonjour Pascal.
Et du soleil pour tout le monde.
Eh oui, c'est vrai que c'est une très belle journée ensoleillée. On en profite, allez, juste quelques petits nuages sur le massif central qui peuvent donner une petite ondée cet après-midi. Quelques averses localement orageuses possibles uniquement en montagne sur les Pyrénées, les Alpes et le relief Corse. Le tout sous des températures en hausse de 22 à 26 au nord et de 27 à 30 au sud.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure 13h pour un point complet.
RTL Midi.
Les élus locaux le réclamaient depuis des jours. La rentrée des classes va être reportée en Guadeloupe et en Martinique. La décision a été prise ce matin en Conseil de défense sanitaire, Vincent Derosier.
Oui, c'est ce que m'ont confirmé plusieurs conseillers. Rentrée scolaire repoussée probablement au 13 septembre et ça concernera les Antilles et la Guyane dans les zones rouges. Les détails seront donnés à l'issue de ce Conseil des ministres. Plus largement, c'est la rentrée scolaire qui agite le gouvernement ce matin. Comment éviter les clusters, les manifestations de profs? Emmanuel Macron sait bien qu'il sera jugé très sévèrement si le mois de septembre est un fiasco.
Alors Vincent, outre ce conseil de défense sanitaire ce matin, il y a eu un conseil de défense autour de l'Afghanistan, puis un conseil des ministres. C'est un programme bien bien chargé pour cette rentrée.
Oui, un programme qui plombe un peu les plans d'Emmanuel Macron, qui rêvait d'une rentrée sous le signe des réformes. Le voilà englué dans un dossier afghan et bien sûr dans cette crise sanitaire qui n'en finit pas. En privé, je peux vous dire que le président a demandé à ses ministres de faire passer le message suivant. Le quinquennat n'est pas terminé et il entend le prouver sur le terrain. Il y aura d'abord un grand séminaire gouvernemental le 8 septembre. Les réformes de l'assurance chômage et des retraites seront discutées la semaine prochaine avec les partenaires sociaux. Le président se rendra aussi à Marseille pour parler sécurité. Avant de dévoiler les conclusions du Beauvau de la sécurité la semaine suivante, il y aura enfin le plan de relance économique et une grande séquence Genève. Bref, ce mois de septembre, c'est presque un pré-programme présidentiel, même si au sommet de l'État, le mot de 2022 est encore tabou aujourd'hui. Il faut donc plutôt parler de réformes qui suivent leur cours.
Merci beaucoup Vincent. Vincent Derosier en direct de l'Élysée pour RTL. On évoquait la situation aux Antilles. Eh bien, sachez que le confinement et le couvre-feu qui sont en vigueur depuis le 30 juillet en Martinique ont été officiellement prolongés. 3 semaines supplémentaires jusqu'au 19 septembre inclus. Une mesure similaire pourrait être prise pour la Guadeloupe. Et puis concernant la rentrée universitaire cette fois. Frédéric Vidal, la ministre en charge de l'enseignement supérieur, a dévoilé ce matin le dispositif. Bilan, pas de passe sanitaire à la fac, des cours en présentiel et le masque, toujours de rigueur à l'intérieur. Une bonne nouvelle, disent ce matin les établissements à l'image de Sorbonne Université qui plonge justement sur ce protocole depuis des semaines, Marie Guerrier.
Oui, l'université parisienne a hâte d'accueillir les étudiants.
On a envie de les bichonner un peu, il faut dire qu'ils nous ont manqué. Ces campus vides, c'était d'une très très grande tristesse.
Marie-Céline Daniel est en charge de la commission formation et vie universitaire avec un message particulier aux nouveaux bacheliers.
On va leur proposer de venir visiter les campus. Les enseignants sont prêts, sont évidemment bien conscients des difficultés de l'organisation du bac de cette année, de la nouveauté, des spécialités. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent trop. On est prêts à les accompagner, à les soutenir.
À ceux qui veulent se rassurer sur leur niveau, Sorbonne Université va proposer des tests de positionnement, des stages de rentrée, du tutorat. Et puis la crise sanitaire a pu aussi avoir du bon.
Ils ont développé des compétences qu'ils n'auraient peut-être pas eues s'ils avaient dû continuer à suivre les cours normalement. Ils ont sans doute gagné en maturité, en autonomie, et que la maturité et l'autonomie sont deux ingrédients fondamentaux dans la réussite étudiante. Donc ils peuvent avoir confiance en eux.
S'ils ont des lacunes, elles pourront être rattrapées. Tout ne va pas se jouer l'année prochaine. Sorbonne Université rappelle qu'une licence s'obtient en 3 ans.
Et à la fin de leurs 3 ans, ils seront aussi bons que leurs prédécesseurs. On peut s'y engager.
Et on l'espère en tout cas. Reportage signé Marie Guerrier pour RTL.
RTL, vous le révélez ce matin, Éric Ciotti sera candidat à la primaire de la droite.
Le député des Alpes-Maritimes l'officialisera samedi devant ses partisans. Pour l'instant, on le rappelle, seuls Valérie Pécresse et Philippe Juvin sont officiellement candidats. Xavier Bertrand, lui, fait campagne, mais hors primaire.
Et ce sera évidemment notre premier débat à la primaire à droite. Et maintenant, Éric Ciotti, est-ce que vous allez aller voter? Est-ce que c'est une maladie française, tous présidents, tous candidats? Et on sera avec Benjamin Sportouche, Benjamin Morel également. Ça sera le deuxième débat à 12h50.
Direction pour l'heure Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor. Après ces interpellations, après les messages antisémites sur la stèle de Simone Veil, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Eh bien, deux hommes sont toujours en garde à vue ce midi. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Que sait-on d'eux ?
Eh bien, ils ont tous les deux une soixantaine d'années. L'un d'eux a été interpellé hier matin après une enquête du groupement de gendarmerie des Côtes d'Armor. Le second suspect s'est rendu de lui-même au poste quelques heures plus tard. Il s'est présenté comme l'un des responsables des dégradations. Les enquêteurs s'appliquent à vérifier la véracité de ces aveux et tentent d'établir le degré d'implication des deux hommes. Ont-ils dégradé une ou plusieurs fois? Je rappelle que la stèle de Simone Veil a été profanée à 4 reprises pendant la première quinzaine d'août, souillée, recouverte de ketchup ou d'excréments, puis salie par des messages antisémites, des croix gammées peintes sur la pierre de granit rose érigée en 2018 en mémoire de la ministre rescapée de la Shoah. Les gardes à vue des suspects devraient se prolonger jusqu'à demain.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Autre enquête, elle concerne cette fois la disparition de Delphine Jubilard, cette infirmière qui, souvenez-vous, elle s'est volatilisée il y a plus de 8 mois en laissant ses enfants en bas âge dans le Tarn. Les avocats de son mari, qui est mis en examen pour le meurtre de son épouse, incarcéré depuis le 18 juin, demande une nouvelle fois sa remise en liberté. Il dénonce la lenteur de la justice.
Je dois faire une défense face à une justice qui manifestement ne fait rien depuis 2 mois. Cet homme dit « je suis innocent ». Il demande à être entendu et on nous dit qu'il ne sera entendu au mois d'octobre. Il est prêt à s'expliquer. C'est un dossier qui est vide. Nous n'allons pas rester les bras ballants en attendant que le temps passe. C'est une détention qui est difficile à double titre. D'une part parce qu'il est innocent et d'autre part parce qu'il est à l'isolement. Donc ça veut dire quoi? Quand on a dit qu'il est tout seul dans une cellule, qu'il a le droit de sortir 1 heure par jour, quand l'administration a la possibilité d'organiser ses sorties dans une autre cellule grillagée au plafond entre 4 murs pour tourner en rond, une véritable cage.
Maître Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubilard, invité ce matin d'Yves Calvi sur RTL, la justice a 10 jours pour examiner cette demande de remise en liberté.
Le football, et revoilà Nicolas Georgerot d'abord dans ce studio, mais revoilà
Bonjour.
Peut-être de manière plus importante pour l'actualité du football, Mbappé au Real Madrid.
Le club madrilène a proposé 160 millions d'euros pour recruter l'attaquant français, offre rejetée Nicolas Georgerot donc par le PSG. Est-ce que le Real peut proposer plus, peut surenchérir?
Oui, c'est une possibilité. Clairement, et on s'y attend d'ailleurs dans les rangs parisiens, sans doute à hauteur de 180 millions d'euros. Le Real Madrid a voulu frapper fort d'emblée, 160 millions, c'est une base élevée pour marquer les esprits, afficher sa volonté et faire passer le message aussi au clan du joueur. Nous, on est prêts à tout, si ça ne se fait pas, ce ne sera pas de notre responsabilité. L'obstacle majeur, il n'a pas changé, du siège de la direction parisienne à Boulogne, à Doha, au Qatar. C'est non, indique le Paris Saint-Germain, pas de séparation avec Kylian Mbappé, qui incarne aux yeux du PSG le présent et l'avenir. Si une offre de 200 millions est transmise, voire plus, est-ce que la position parisienne va vaciller? C'est tout l'enjeu de cette dernière semaine du marché des transferts.
Mais Mbappé, lui, veut quoi?
Son objectif à terme, et je précise bien à terme, est de rallier le Real Madrid, mais son entourage insiste, pas de bras de fer avec le PSG. Le club parisien sera décideur, il accepte la proposition ou non. Mbappé, finalement, est gagnant sur tous les tableaux. Soit il part dès cet été, soit il reste à Paris pour faire une saison avec Messi et Neymar, avec l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Il y a pire comme choix.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. On rappelle côté terrain que l'AS Monaco joue ce soir sa saison européenne, une place en Ligue des Champions après une défaite 1-0 à l'aller. Match retour ce soir donc face au Shakhtar Donetsk. C'est comme ça qu'on dit, hein. En face de groupe de la Ligue des Champions, je le prononce super mal. Coup d'envoi à 21h, ce sera bien sûr à suivre sur RTL. Et puis je vous rappelle que Nice et l'OM sont convoqués ce soir devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après les graves incidents de dimanche. Ça, c'est à 18h. Un mot des JO, des Jeux paralympiques, avec déjà des médailles pour les Français, de l'argent pour Hugo Didier sur le 400 mètres nage libre. Un peu plus tôt, la cycliste Marie Patouillet décrochait le bronze sur l'épreuve de poursuite sur piste. Médaille d'autant plus belle que c'est la première des Français et aussi que la jeune femme a commencé le vélo il y a seulement 3 ans.
Premier jeu, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'étais préparée à avoir une bouffée d'émotions hyper forte, qui a été le cas parce que je me suis levée ce matin avec l'impression d'avoir le cœur qui va sortir de la poitrine. À gérer aujourd'hui, ça a été compliqué, mais je suis hyper fière. En fait, c'est un peu l'épreuve Covid. C'est-à-dire que les Jeux ont été repoussés d'un an. Paris, c'était prévu que je fasse la poursuite. Et on s'est dit, bah, vu que les Jeux sont reportés d'un an, on va commencer la poursuite maintenant. Donc en fait, ça fait moins d'un an que je le travaille et les progrès, ils ont été extraordinaires parce que là, j'explose depuis 20 secondes mon record. Même les deux Anglaises devant moi sont venues me féliciter. Donc c'est un beau temps, oui.
Marie Patouillet, médaille de bronze, donc aux Jeux paralympiques. Elle était au micro de nos confrères de France Télévisions.
Une pause dans quelques secondes et nos débats, le premier du jour. Faudra-t-il une troisième dose pour tout le monde? C'est déjà le cas en Israël, on va en parler dans une seconde.
RTL. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On ira, je pense, à une troisième dose pour une grande partie de la population vaccinée. Troisième dose, une fois de plus, pour stimuler la réponse immunitaire.
Jean-François Delfrécy, le patron du Conseil scientifique, a été très clair ce matin chez nos confrères de France 2. On va sans doute tous avoir droit à une troisième dose de vaccin anti-Covid. Pour l'instant, on le rappelle, la HAS a donné son feu vert pour les plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidité. Ça fait à peu près 18 millions de personnes d'après le ministère. Bonjour Robert Sebag.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes, je le rappelle, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette troisième dose, pour tous, ça vous paraît, à vous aussi, inéluctable?
Écoutez, il y a plusieurs choses à dire. Bon, M. Delfrécy, le professeur Delfrécy a dit que ça sera inéluctable, il n'a pas donné de date. Hier, il y a eu l'avis de la Haute Autorité qui a dit qu'effectivement, à partir de 65 ans, avec des comorbidités, mais en priorité d'abord les gens de 80... Alors, pourquoi ça? Quand on a eu le vaccin, on ne connaissait pas la durée de protection de ce vaccin. On savait qu'il était efficace, en particulier sur les formes graves, mais on n'avait pas la durée. Avec le temps, on s'aperçoit qu'à partir de 6 mois, en particulier chez les personnes âgées, parce qu'on sait, si vous voulez, qu'elles ont un système immunitaire un peu plus faible, il faut redonner une dose pour maintenir, si vous voulez, la présence d'anticorps et l'intervention de ce qu'on appelle l'immunité cellulaire.
Mais ça, c'est pour tout le monde ou pour uniquement les gens les plus fragiles?
Alors, ça, c'est pour les gens les plus fragiles. Alors, il faut rappeler, Pascal...
Et chez les autres, ça dure combien de temps?
La troisième dose, elle existe déjà chez les personnes transfusées qui avaient des troubles immunitaires. On a déjà commencé cette troisième dose. Alors, moi, ce que je dis et ce que nous disons, enfin beaucoup de médecins, c'est qu'il y a une énorme variabilité. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui peuvent avoir une protection nettement supérieure à 6 mois. On l'a vu avec les gens qui ont contracté la maladie lors de la première vague. Et ça peut durer même jusqu'à 1 an. Et puis d'autres, ça disparaît, enfin ça diminue un peu plus rapidement.
Mais du coup, docteur, comment on fait? On fait un test pour vérifier avant ou...
Alors justement, enfin, avant de distribuer l'argamanu des doses, et on sait qu'il va y avoir une limitation, j'y reviendrai, on fait ce qu'on appelle un test sérologique. Et le test sérologique vous donne le niveau d'anticorps. Et si votre niveau d'anticorps est encore satisfaisant, si vous voulez, on peut attendre. Et c'est au moment où il y a une baisse importante de vos anticorps neutralisants que vous pouvez bénéficier d'une troisième dose.
Mais un vaccin qu'il faut renouveler tous les 6, 8 ou 10 mois, convenons quand même que c'est très contraignant. Et on se demande d'abord si on aura assez de doses, et même si matériellement, 50 millions de Français peuvent tous les 8 mois se refaire vacciner.
Alors, vous avez raison, parce que un des problèmes que nous nous posons, si vous voulez, parce que effectivement, le nombre de doses, il n'est pas complètement illimité, et qu'on sait que quand vous avez affaire à une pandémie, ce qui est le cas, pandémie, ça veut dire que la plupart des pays du monde sont touchés, si on veut vraiment arrêter la circulation de ce virus, il faut effectivement que des pays... Aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays qui sont à moins de 10% de vaccination. Il faut aussi réserver des doses pour ces pays. Il y a une répartition des doses. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas cette troisième dose. La priorité, c'est encore les 20% de personnes à risque dans notre pays qui ne sont pas vaccinées. Ça doit être la priorité. Et effectivement, après, avancer tranquillement,
faire des tests sérologiques et voir les gens qui devraient avoir une troisième dose.
Robert Sebag, vous restez avec nous. La France n'est pas le premier pays à parler de troisième dose et à la mettre en place. Le premier, ça a été Israël. On va justement partir sur place où l'on retrouve Julien Balloul. Bonjour. Vous vivez sur place, vous avez été par le passé, et je le précise, journaliste, et vous avez reçu votre troisième dose donc hier.
Absolument, hier soir, parce que hier le ministère de la Santé israélien a décidé d'ouvrir cette vaccination même aux trentenaires. En fait, on a commencé la vaccination de troisième dose, il me semble, le 30 ou le 31 juillet, d'abord pour les plus de 60 ans. Mais il faut comprendre qu'en fait, en Israël, on a été vacciné plus tôt qu'en France, puisqu'on a commencé déjà fin décembre. Vous savez que le rythme de vaccination en Israël au début était très élevé. Donc en fait, tous les soixantenaires, tous les cinquantenaires, et même moi, les trentenaires, hein, en février, c'était bouclé. Donc moi, hier, ça faisait pile 6 mois, jour pour jour, après ma deuxième dose. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc ça a d'abord commencé par la vaccination de troisième dose des plus de 60 ans il y a un mois. Ensuite, il y a 2 semaines, ça a été réduit aux cinquantenaires. Il n'y a même pas une semaine aux quarantenaires. Et hier, aux trentenaires, le jour même, j'y suis allé, tout le monde court pour avoir des rendez-vous. La raison est simple, c'est que honnêtement, les cas sont en expansion partout. Mais vraiment, c'est-à-dire je vais en boîte de nuit, je vais en soirée, il y a des cas systématiquement derrière. Et que dans quelques jours, commencent les fêtes juives de Rosh Hashanah, de Kippour, le Nouvel An juif, qui sont des rassemblements familiales. Et personne ne veut prendre de risque.
Mais ce qui n'est quand même pas très rassurant, parce que tout le pays était vacciné en Israël. Vous me dites que les cas explosent. Il n'y a que 9 millions de personnes en Israël. C'est plus facile, évidemment, de vacciner 9 millions que 50 millions. Je ne sais pas l'avis de Robert Sebag explosion des cas dans un pays ultra vacciné.
Alors, ce qu'il faut bien...
Le problème, c'est encore le million qui n'était pas vacciné et qui a permis au variant Delta d'entrer.
Il y a ce point-là, effectivement, sur le million de personnes qui n'étaient pas vaccinées en Israël. Mais vous avez aussi, quand on regarde les contaminations en Israël aujourd'hui, il s'agit beaucoup de jeunes, d'asymptomatiques, si vous voulez, et les cas à l'hôpital n'ont pas explosé et la mortalité n'a pas explosé.
Mais c'est ce qu'on cherche à protéger justement en France.
Et c'est ce qui est effectivement le plus important. Merci Robert Sebag, on a fait le tour avec Julien Balloul. Malheureusement, le temps qui... Vous vouliez dire...
Juste rappeler que Alain Fischer, le professeur Fischer, sera ce soir l'invité d'RTL Soir et que les auditeurs peuvent lui poser toutes leurs questions.
Donc, on va conclure sur ce débat et on va parler de la primaire, ce qui n'a évidemment aucun rapport. À tout de suite.
RTL Sucré. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Un nouveau quasi-candidat dans la bataille à droite et il s'appelle Éric Ciotti.
Oui, selon nos informations, le monsieur sécurité de LR a prévu de se lancer dans la bagarre ce week-end.
Vous l'entendez, dès ce matin, Éric Ciotti se lance donc dans cette primaire à droite. Bon, il reste encore quelques petits détails à régler, comme nous l'expliquait tout à l'heure Aurélie Herbemont qui révèle cette info.
Éric Ciotti met donc tout en place pour se lancer ce week-end à sa rentrée dans l'arrière-pays niçois avec 2000 militants attendus. Projets et équipes sont dans les cartons. Mais avant de se jeter dans la bataille pour de vrai, il a encore quelques coups de fil à passer. Le plus important, appeler Nicolas Sarkozy, la figure incontournable à droite.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour.
Vous êtes le chef de ce service politique d'RTL, donc qui a révélé l'info ce matin. Petit récapitulatif d'abord, qui y va à cette primaire?
Alors écoutez, pour l'instant officiellement, Valérie Pécresse et Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, ils se sont tous les deux déclarés officiellement. Et puis, c'est quasiment fait, donc on le disait ce matin, pour Éric Ciotti. Michel Barnier aussi, le négociateur du Brexit, s'y prépare, il devrait se déclarer. Bientôt, nous dit-on.
Mais est-ce qu'on est certain qu'elle soit actée, primaire à droite? Ou est-ce qu'il y a encore une incertitude?
Je vais vous dire cela. On ne sait pas. Je ne mettrai pas ma main à couper, moi, Pascal Sécart. Pourquoi? Parce que...
Mais alors, qui a décidé? Alors, il y a des gens qui se présentent à une primaire qui n'existe pas.
Le 25 septembre, il y aura le congrès, un congrès LR qui va acter ou non de cette primaire. Parce qu'entre-temps, vous allez avoir... Deux grands sondages qui vont être faits.
Et pourquoi c'est pas acté déjà?
Parce que par exemple, Christian Jacob, le patron des LR et ses parrains, n'en veut pas. Il espérait que François
Baroin
soit candidat.
Donc le patron de son propre parti ne veut pas des primaires, il pourrait avoir quand même des primaires.
Pour tout vous dire,
sera ouverte cette primaire? C'est-à-dire que n'importe qui peut se présenter ou c'est conditionné?
Je peux pas, vous savez que je vous dis que des choses factuelles ici même.
Parce que moi j'ai une question toute simple.
Attendez, mais non, mais j'ai compris, C'est que tout simplement, cette primaire ouverte, certains le veulent. Valérie Pécresse le souhaite, Laurent Wauquiez le souhaite, Bruno Retailleau en souhaitait. Ils ont fait une tribune en juillet pour que ce soit le cas. Mais encore une fois, ce n'est pas actuel.
Alors, moi, j'ai une question toute simple. Si Éric Zemmour, qui n'est pas membre des Républicains, veut se présenter à la primaire des Républicains, il a le droit ou pas?
Écoutez, à ce stade, rien n'est interdit puisque rien n'est fixé. Et puis, certains le souhaitent, comme par exemple le député LR Julien Aubert. Mais il est un peu isolé. Et puis, je peux vous retourner la question, Pascal. Je ne suis pas certain que l'intéressé Éric Zemmour soit partant pour aller à une primaire d'un parti qu'il étrille de temps en temps, assez régulièrement.
Non, on peut faire parfois une OPA sur une entreprise, peut exister. Xavier Bertrand, vous n'en avez pas parlé.
Xavier Bertrand, il ne veut même pas y aller.
Justement. Benjamin Sportouche, on va accueillir un autre Benjamin. Benjamin Morel, bonjour. Et merci d'être en studio avec nous. Vous êtes, je le rappelle, politologue, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon Assas. Pascal, vous vouliez entendre Xavier Bertrand. Ça tombe bien. Petit extrait. Cette primaire, lui, il n'en veut pas. Écoutez-le, il l'expliquait sur le plateau TF1 il y a quelques semaines.
La primaire, elle a été source de division. Tous ceux qui étaient passés par des primaires ont été éliminés dès le premier tour de l'élection. On voit bien que ce sont plus souvent des machines à perdre. Je ne serai pas candidat à une primaire.
Benjamin Morel, une primaire, c'est une machine à perdre, forcément, comme le dit Xavier Bertrand?
En tout cas, c'est une machine qui a été construite et pensée pour le système américain, dans lequel vous avez des partis qui sont très peu polarisés, une abstention qui est très très forte, et où les partis, en réalité, n'ont pas le même rôle qu'en France. C'est un objet de recrutement des élites, notamment administratives. Lorsque ça a été importé en Europe, en effet, ce système a été fondamentalement dysfonctionnel. Parce qu'avec une primaire, en réalité, vous faites trois choses. Pour être élu, vous devez parler à votre base électorale. Alors, cette base électorale n'est pas forcément représentative de l'espace électoral que vous campez. Donc, du coup, vous cornérisez. Par ailleurs, dans une primaire, vous avez des gagnants et des perdants. Alors, pour les perdants, ça implique de soutenir un programme qu'ils n'ont pas soutenu, et c'est évidemment compliqué. Peut-être que Macron ne serait pas président de la République s'il n'y avait eu l'électorat de Manuel Valls et d'Alain Juppé des deux côtés, qui ont enrichi ces troupes. Et deuxièmement, comme vous avez un programme qui est un programme très centré sur votre base électorale principale, ce programme, malgré tout, bon an, mal an, vous le gardez ensuite pour la présidentielle. Or, c'est un programme qui s'adresse à cette base électorale, pas à l'ensemble des Français, et ça, c'est assez problématique. Les partis y ont trouvé un intérêt parce que pendant longtemps, ça a été un instrument de médiatisation pré-campagne et ça a permis de porter des candidats. Le problème, c'est que les primaires ont eu également des effets pervers, comme je le disais, que ça a fracturé le paysage politique et qu'aujourd'hui, les grands partis qui servaient de filtre à la vie politique, qui permettaient en réalité de désigner un candidat qui faisait l'unanimité dans son camp, aujourd'hui sont fragilisés et donc les partis, quand on parle de LR, qui, à défaut de pouvoir réellement filtrer ses candidatures, en sont remis à trouver une voie différente de filtre, s'en remettent aux primaires, plus par choix aujourd'hui, mais plutôt par défaut, d'où la position compliquée de Christian Jacob.
Pardon, mais juste, c'est intéressant sur la primaire. L'histoire de la primaire en France aurait pu complètement changer en 2016 s'il n'y avait pas eu l'histoire François Fillon. À ce moment-là, on dit quoi? Que la primaire, c'est un système qui peut s'imposer en France. Tout le monde loue les vertus de la primaire. Il se trouve que c'est la suite des événements avec les affaires François Fillon qui discréditent la primaire. Mais la primaire, à ce moment-là, on se dit que ça vient chercher et désigner un candidat que la droite n'a pas naturellement. Donc, le cours de l'histoire aurait pu être différent avec une primaire qui aurait pu s'instaurer en France. Mais à ce moment-là, c'est l'affaire François Fillon.
C'est un peu subtil ce que vous dites, mais chacun l'aura compris quand même, parce que les auditeurs d'RTL sont subtils. C'est pas la primaire qui est en cause dans l'échec de Fillon. Nous sommes d'accord. Mais si on se projette avec une primaire à droite, donc vous auriez un candidat républicain et vous auriez Xavier Bertrand en plus, et pourquoi pas Éric Zemmour, plus Marine Le Pen.
Les républicains vous disent que Xavier Bertrand ne pourra pas être dans la course si jamais il y a une primaire LR, parce que du coup, ça le banaliserait, ça le marginaliserait.
C'est vrai,
je pense que c'est assez audacieux.
C'est tout le problème. Alors sur les primaires, il faut faire attention. C'est-à-dire que certes, il y a François Fillon, mais François Fillon est déjà un candidat très polarisé par rapport à son camp, ce qui va ensuite l'affaiblir et conduire un certain nombre de cadres de la droite à aller chez Emmanuel Macron. Et vous avez Benoît Hamon, qui est très peu représentatif de son camp et qui va conduire également à une fracturation de l'électorat social-démocrate.
C'est toujours le plus radical.
C'est toujours celui qui
est, notamment chez les écologistes, on voit ça, celui qui est élu, c'est toujours le plus radical. C'est celui qui parle à sa base.
Exactement.
Comme vous l'avez dit.
Parce que ça dépend qui vote à la primaire,
Exactement. Et là, il va y avoir une grande question concernant la primaire à droite, parce qu'en réalité, aujourd'hui, personne ne sait, et c'est également l'un des obstacles, comment est-ce que ça va pouvoir s'organiser. Si vous faites une primaire en ligne, personne ne sait en réalité.
C'est quoi une primaire en ligne?
Si vous faites une primaire, on sait faire des consultations d'adhérents, parce que chacun a sa carte, mais une primaire ouverte, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout à chacun peut voter sur Internet. Comment est-ce que vous triez les trolls, les gens qui n'en sont pas, etc. Pratiquement, c'est très difficile. Si vous faites une primaire en présentiel, ça coûte extrêmement cher.
C'est une organisation, ce qui s'était passé la dernière fois.
Une logistique importante, sauf que LR, à l'époque, n'avait pas les mêmes moyens et avait un peu plus de temps. Oui. Donc aujourd'hui, LR est en difficulté par rapport à ça.
Et une toute dernière question, quel serait l'intérêt, on revient à Éric Ciotti, d'y aller pour lui, c'est quoi, un coup de pub
Alors, l'intérêt, il peut être double. D'abord, vous avez en effet un coup de pub, une médiatisation. On a vu avec des personnalités politiques, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, que lorsque vous postulez dans ce type de structure, eh bien, vous acquérez une notoriété qui ensuite vous rend totalement incontournable. Le deuxième élément, c'est que, comme je le disais, vous surmobilisez la base électorale. Et admettons que Laurent Wauquiez n'y aille pas. Qui campe réellement aujourd'hui cette base électorale LR plutôt traditionnelle, ça ouvre un espace.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Laurent Wauquiez qui représente un courant des Républicains. Vous n'en avez même pas parlé, Benjamin Sportouche.
Parce qu'on ne m'avait pas interrogé. Voilà, moi, je vais vous dire, on ne sait pas. Là aussi, grand mystère. En fait,
c'est intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent.
Ça sera autant de suspense qu'on va bien.
Non, mais Laurent Wauquiez, c'est étonnant, par exemple, qu'il n'y soit pas.
Pourquoi ? Parce que début juillet, on sait qu'il va y aller. On nous dit maintenant, on se pense qu'il va y aller parce qu'il signe une tribune pour la primaire en faveur de la primaire. Et puis l'été est passé. Et puis il se rend compte qu'il a encore des cicatrices, nous dit-on, et qu'il n'est peut-être pas prêt à affronter une défaite.
Il a des cicatrices.
Mais très clairement, s'il n'y va pas, bah vous savez très bien qu'il a démissionné avec fracas de l'UMP il y a 2 ans et que ça a laissé des marques sur, sur sa notoriété, son image. En même temps, et je suis d'accord avec vous, et c'est vrai, aller à une primaire, ça permet d'exister médiatiquement. Mais lui ne va peut-être pas vouloir prendre ce risque-là. Et peut-être ira-t-il rejoindre un autre candidat.
Et il a été bien réélu à la tête des régions en juin dernier. Je ne souhaiterais pas que les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent en vidéo s'inquiètent de votre santé. Vous avez une écharpe,
mais tout va bien. Il fait
un peu frais. Vous surveillez votre voix et bien évidemment. Et puis le beau temps revient. Voilà. Amandine, merci.
Mais merci à vous. Rappel des titres dans un petit instant avant les auditeurs.
Exactement, les auditeurs à partir de 13h jusqu'à 14h30.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute.